Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement. Bienvenue sur notre podcast dédié aux technologies no-code dans lequel on reçoit chaque semaine des experts ou des entrepreneurs qui ont lancé leur projet grâce à ces outils. Par ailleurs, on propose également des formations si vous voulez vous y mettre vous aussi. Alors, dans ce 24e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jordan Chenevier, le CMO de Germinal, pour aborder un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, le gros hacking. Et vous allez voir qu'il a plein de choses passionnantes à raconter sur le sujet, de manière très pédagogique, sans jargon et sans filtre, un peu à l'image de ce que propose Germinal, ce à quoi ils nous ont habitués. Alors Jordan parle aussi en détail des outils qu'il utilise au quotidien, des outils no-code évidemment, et vous comprendrez vite la proximité naturelle qu'il y a entre les gros hackers et les no-codeurs. Mais surtout, vous ressortirez avec plein de bons conseils pour l'acquisition de vos premiers utilisateurs et comprendrez comment tous ces outils peuvent également servir à votre croissance. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse avec cette super discussion. Bonne écoute. Salut Jordan, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement.
Avec plaisir.
Responsable marketing chez Germinal, en CMO comme on dit dans le milieu. Tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que veut dire ce poste. Alors, en quelques années, vous êtes vraiment imposé comme les références dans tout ce qui est acquisition et growth hacking. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez un univers, un ton bien à vous, et des prises de position tranchées que je trouve hyper intéressantes, qui résonnent pas mal aussi dans le monde du no-code, dans notre écosystème. D'ailleurs, il y a une vraie proximité entre communauté des growth hackers et puis celle de jeunes des no-codeurs et des no-codeuses. On a vu d'ailleurs sur nos Slack débarquer plein de gros hackers là dans cette année, dans les mois qui ont précédé. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais aborder vraiment la question du no-code par le prisme du gross et aussi expliquer du coup aux gens qui connaissent pas ce que c'est le gross hacking, l'acquisition, parler tout ça. Donc j'étais hyper content quand notre stagiaire Ulysse nous a mis en relation parce que je sais que c'était vraiment parfait d'en parler avec vous, avec toi. Voilà, donc d'ailleurs je lui dédie cet épisode puisqu'il a fini son stage il y a quelques jours.
Merci beaucoup. Ouais.
Voilà, c'était cool, il me donne l'occasion de discuter. Voilà, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, ça suffit pour l'intro. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Jordan, je suis donc le CMO de Germinal comme tu l'as dit, donc le travail du CMO donc c'est vraiment de définir toute la stratégie marketing, de suivre son exécution et donc de travailler à la fois sur la partie stratégie opérationnelle. Donc nous à une pour une boîte de la taille de Germinal, effectivement, on peut dire responsable marketing. Pour d'autres boîtes, notamment plus grosses, c'est plutôt directeur marketing pour des personnes qui veulent des équivalences du coup en français. Et j'ai rejoint Germinal au tout début en tant que premier salarié. Donc j'ai pu voir toute l'histoire que je serais heureux de partager avec vous.
Plein de questions là-dessus sur ce que vous faites, vos clients, les outils que vous utilisez, tout ça, on va parler de tout ça. Déjà, j'ai une petite question, t'as un background technique ou pas du tout
Non, alors en fait, moi j'ai un background, alors rien à voir, j'ai fait des études d'achat, j'étais acheteur dans l'industrie automobile à la sortie de mes études. Je travaillais pour une société qui s'appelle Valeo, donc boîte du CAC 40. Donc absolument rien à voir avec le milieu. Ensuite, j'ai monté une boîte dans le domaine artistique, puisque du coup j'ai été danseur, prof de danse, etc. En fait, au travers de cette expérience entrepreneuriale, j'ai découvert le marketing, le milieu du growth, et j'ai rencontré Grégoire, le CEO de Germinal, avec qui on a bien accroché, et c'est ce qui a fait que ensuite je me suis retrouvé chez Germinal. Donc tu vois, c'est okay. J'ai pas du tout le background.
Parce que du coup, t'as découvert le marketing, l'acquisition, tout ça pour toi en tant qu'entrepreneur.
Ouais.
Et puis finalement, t'en as fait ton métier, quoi.
Exactement. En fait, ça a vraiment été, je sais pas, je prenais énormément de plaisir à faire ça quand j'étais entrepreneur. Et en fait, une fois que donc mon entreprise, je pense que tout le monde aura deviné, hein, mais après 2 ans, donc j'ai arrêté mon entreprise parce que ça fonctionnait pas. Mais après, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je continue d'évoluer dans ce milieu parce que c'était passionnant, quoi.
Et comment tu t'es formé déjà ? Enfin, en faisant, j'imagine, mais est-ce que déjà en premier, toi personnellement, et puis après, on parlera aussi de ce que vous faites en termes de formation.
Ouais. Alors moi, je me suis formé en faisant beaucoup. En fait, j'ai une chance, on va dire, c'est que un gros élément du growth, c'est l'état d'esprit, et c'est beaucoup l'état d'esprit de l'exécution. C'est-à-dire, on se pose pas trop de questions, on tente le truc, tant pis si ça marche pas, on met son ego de côté, etc. Et moi, j'avais la chance, ou en tout cas, J'ai cette chance que ce soit un état d'esprit que j'ai même en dehors du travail. C'est-à-dire que dans la vie, c'est un état d'esprit que j'ai. Et donc, naturellement, en fait, je me suis mis à exécuter des trucs, même si c'était à moitié bancal, même s'il fallait utiliser, fallait bricoler les choses avec des bouts de ficelle. Tant pis, j'y allais. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai découvert le growth via le contenu de The Family, c'était il y a 4 ou 5 ans. Très bon contenu, voilà, ça c'était vraiment les références là, coup d'état, c'était incroyable. Donc j'ai découvert via les vidéos qu'ils mettaient sur YouTube, et donc en fait, ben j'ai découvert plein de choses que j'ai pu de nouveau tester de mon côté pour mon projet, et c'est comme ça en fait que j'ai appris.
C'est intéressant parce que vraiment cet état d'esprit d'exécution, comme tu dis, plus le côté autodidacte, je pense que c'est des traits de caractère aussi qu'on retrouve vraiment chez les no-codeurs, et bon, un peu au sens large vraiment aujourd'hui sur le web, l'entrepreneuriat du web, etc.
Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que du coup, je te disais en off juste avant que le no-code, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, ben, en fait, je sais pas coder. En tout cas, j'ai appris, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'apprendre le code. Donc, je comprends, tu vois, HTML, CSS et le JS. Mais c'est très limité, ça prend beaucoup de temps. Et vu que j'ai cet état d'esprit dans l'exécution, en fait, ça me saoulait de passer 1000 ans à essayer de faire mon script JS. Et après, tu vois, j'ai découvert Zapier, des outils comme ça, typiquement. Bon, voilà. Et je suis tombé amoureux de ça. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que le no-code, ça rentre totalement dans cette idée-là de, en fait, on va s'affranchir de la barrière du code pour exécuter plus rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais, et toujours à des fins de lancer un projet au service de quelque chose, quoi.
Tout à fait.
C'est ça qui est vraiment intéressant. Bon, on va avoir plein de choses à se dire, hein, déjà, juste avec tout ce que tu m'as dit. Avant que tu nous présentes un peu plus Germinal et ce que vous faites, j'aurais bien aimé que tu m'expliques, tu me dises, un peu comme si j'avais 5 ans, ce que c'est le growth hacking. Voilà, c'est une question que ça fait longtemps que je voulais poser et que j'ai envie d'avoir dans le podcast.
Bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, et on n'essaye pas de réinventer la roue, c'est que le growth, c'est du marketing. Voilà. C'est juste, moi, j'aime bien le présenter en disant, c'est une discipline du marketing. C'est-à-dire que à l'intérieur du marketing, tu as la communication, tu as plein de choses. Et à l'intérieur, du coup, tu as le growth. Et en fait, le growth, c'est la partie du marketing où on va se focaliser sur la recherche d'efficience. C'est vraiment ça pour moi qui est hyper important, je trouve, dans la définition. C'est cette recherche d'efficience. Et donc, l'efficience, elle va passer par, comme tu l'as mentionné quand on dit growth hacking, donc il y a le mot hack. Donc, ça passe par le fait de trouver des hacks. Donc, les hacks, ça va être essayer de trouver des raccourcis qui vont pouvoir nous permettre de toucher notre audience plus rapidement, de manière plus efficace, ou plus d'audience plus rapidement, plus efficace, ou d'augmenter la conversion, etc., etc. Donc, en fait, on va travailler sur tous ces systèmes qui permettent de gagner en efficience. Et après, l'efficience aussi, elle va se trouver. Et nous, on travaille énormément là-dessus. Hein, c'est toute notre, toute la théorie germinale, j'ai envie de dire. C'est de dire, en fait, on pense qu'on est c'est possible de designer un système, vraiment d'avoir une méthodologie, un système qui permet, au-delà du hack, d'avoir de l'efficience dans tout ce qu'on fait, parce que en fait on a globalement compris toutes les limites techniques des outils qu'on avait à disposition, tous les pendants marketing, psychologique, etc. qui fonctionnent chez les gens, etc., etc. Est-ce que c'est clair ?
Ouais. Non, je pense que c'est assez clair. Peut-être que tu peux donner un petit exemple. Justement, nous, des fois, on dit, enfin, c'est surtout mon associé Erwan qui, quand il présente le growth hacking, ils disent le côté hack, c'est d'utiliser des moyens non conventionnels pour.
Ouais, tout à fait. Alors, ouais, on a beaucoup utilisé cette expression, notamment au début de Germinal, en disant que nous, ce qu'on faisait, c'était du marketing non conventionnel. Et par ça, typiquement, pour moi, l'exemple parfait, le plus simple à comprendre, c'est tout ce qui concerne les techniques de scraping de base de données. Donc le scraping, ça va être utiliser des outils, mettre en place des scripts maintenant, encore une fois, il y a plein d'outils no code qui permettent de pas avoir à faire de script et de quand même faire du scraping, mais d'aller récolter des adresses email dans des bases de données ou depuis LinkedIn, etc., dans des endroits où normalement c'est du travail manuel qui est un peu long. Et donc là, en fait, on va chercher à automatiser cette démarche. Et donc ça, en fait, par rapport au marketing traditionnel, qui se focalise sur le copywriting, la créative, la communication, c'est totalement non conventionnel.
Et si tu mixes les deux, tu commences à avoir des choses intéressantes.
Exactement. Et donc après, exactement. Et après, nous, en fait, ce qui est assez intéressant et qu'on observe beaucoup chez Germinal, c'est que selon le domaine dans lequel tu évolues, le growth, il va avoir un impact plus ou moins important selon le moment dans lequel tu le fais intervenir dans la vie de ton entreprise. C'est-à-dire que pour certaines entreprises, faire du growth hacking au tout début de son histoire, c'est ça qui va permettre de faire la croissance, d'avoir une croissance forte et durable. Et pour d'autres types d'entreprises, il faut plutôt faire intervenir ça plus tard. Et je te donne un exemple un peu bête, mais souvent, notamment dans ce qui va concerner le milieu du luxe, un exemple un peu basique, ce qui va être clé, ça va être la communication. Et le growth hacking, en fait, il va venir s'interfacer avec la communication ou intervenir dans un second temps, alors que pour dans d'autres entreprises, type nous, le milieu dans lequel on évolue, Germinal, qui est le milieu des agences ou là de la formation, c'est des choses qui peuvent, le growth peut intervenir très tôt, en fait, dans notre histoire.
Je pense que si je dois résumer, je pense qu'il y a vraiment cette notion de croissance qui est très importante. Parce qu'en fait, si tu as une super idée, enfin le côté vraiment traditionnel, je sais pas, tu as une campagne de pub, tu vas faire une super belle pub. Pub d'ailleurs, c'est pas un bon mot, mais on va dire que tu as un super message, tu vois, tu as un super copywriting, comme on dit, donc vraiment tu sais très bien écrire, tu as un beau produit. Le problème que tu as au début, c'est que tu as personne à toucher, quoi. C'est-à-dire que tu es tout seul.
Oui.
Nous, on est passé par là, hein, par exemple, on a fait des formations. Et puis, comment on les vend? Au début, sur les réseaux sociaux, on a zéro follower. Je pense qu'il y a ce côté, vraiment ce point de départ quand tu es à zéro. Comment tu fais pour acquérir et faire croître ta base de gens? Je parle même pas de clients, ça c'est la deuxième étape, mais déjà de gens à qui tu peux parler, quoi.
Ouais, tout à fait. En fait, il y a... Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le mot growth, ça veut dire croissance en anglais. Et donc, le focus principal, je dis c'est une discipline du marketing, mais effectivement, le focus principal... avec le growth, ça va vraiment être la croissance de l'entreprise. Et donc pour ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quelques frameworks qui permettent d'identifier, par exemple, le framework le plus connu, qui est le framework ARR, donc AARRR, qui est acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et en fait, ça, c'est un framework. Quand on travaille en growth, en fait, on va travailler sur chacune de ces étapes. Donc, on va travailler sur l'acquisition de clients, sur l'acquisition de leads. On va travailler sur l'activation de ces clients, c'est-à-dire une fois que la personne est venue sur mon site, comment je fais pour la transformer en client. Donc, on va travailler sur des logiques de conversion. Ensuite, il y a tout ce qui est rétention, comment faire en sorte que la personne, elle rachète ou elle reste sur mon site. Typiquement Instagram, enfin globalement les réseaux sociaux, c'est la métrique principale qui suivent la rétention, comment faire en sorte que les gens se connectent 50 fois par jour sur mon appli.
Il reste longtemps, phase des actions.
Exactement. Et ensuite on a le referral, donc c'est faire en sorte que les gens en parlent. Donc là on va pouvoir, exemple un peu typique, c'est Uber avec le offrez 10€ et recevez 10€. Donc forcément je vais en parler à mes amis puisque je vais leur faire un cadeau et eux en fait sans le savoir ils vont me faire un cadeau aussi. Et puis après il y a la logique de revenu, donc ça va être les upsells, donc une fois que j'ai acheté quelque chose, comment faire en sorte que la personne, je vais lui faire augmenter son panier moyen, etc. Mais tout ça, on voit bien que ça rentre dans une logique de croissance de l'entreprise. Et un élément qui est extrêmement important dans le growth, donc il y a deux choses, c'est effectivement dans la partie acquisition, donc le premier A, ça demande quand même une maîtrise technique des canaux d'acquisition. Donc c'est pour ça que dans le growth, on trouve souvent des personnes qui sont assez techniques, notamment sur tout ce qui est plateforme publicitaire, etc. Parce que il y a quand même une barrière à l'entrée aussi à l'utilisation de ces plateformes publicitaires, parce que mettre les mains dans Facebook Ads, c'est quand même pas facile au début à comprendre. Donc ça c'est le premier élément. Il y a une maîtrise des canaux d'acquisition. Et après le deuxième truc, c'est que c'est une démarche qui est hyper scientifique. Là aussi, à la différence du marketing traditionnel qui... d'ailleurs, c'est assez triste parce que... Enfin, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais quand on voit par exemple Ogilvy, qui est grand publicitaire des années 60, etc., il a écrit un bouquin... j'ai perdu le nom, mais je veux vraiment le recommander. C'est vraiment un super bouquin. Il s'appelle... je sais plus. C'est Bon, bref, je vais essayer de vous le retrouver. Donc Ogilvy a écrit un bouquin dans les années 60 où il montre bien que lui, en tant que publicitaire, il faisait des affiches, etc. Il était vraiment dans une démarche scientifique, mais en fait, cette démarche scientifique, elle s'est un petit peu perdue dans le temps, et on est vraiment rentré dans le marketing, dans des choses très... dans de l'intuitif, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'intuition que ça va marcher, ou on vient essayer de raisonner de manière un peu particulière pour essayer de justifier pourquoi on prend telle et telle action. Là, en fait, le growth, c'est complètement... on va complètement mettre de côté ses opinions, etc. Ce qui compte, c'est la démarche scientifique, et donc c'est pour ça que notamment les outils d'analytics, donc pour analyser le comportement des personnes sur notre site, combien de personnes on a réussi à convertir, combien de personnes on a réussi à faire venir, sur quel message, sur quel... voilà. Tout ça, et analyser toutes ces données, en fait, c'est via l'analyse de ces données qu'on va être en mesure de prendre des décisions qui sont objectives. Et ça, c'est vraiment un élément hyper, hyper important de la démarche. C'est ce côté, je gagne en efficience, donc je suis dans l'exécution à fond. Ça demande une maîtrise un peu technique et marketing, encore une fois, psychologie humaine et tout. Et la partie scientifique de j'analyse ma donnée, je suis capable de tirer des conclusions sur mes données, je rentre dans un niveau de granularité suffisant pour pouvoir tirer des tendances. Voilà.
Ah non, j'ai vu du coup un bout de la formation de Grégoire sur comment devenir un monstre sur LinkedIn. Et ouais. J'étais assez très agréablement surpris par justement cette approche scientifique, quoi. C'est-à-dire que moi, au début, j'avoue que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, j'ai trouvé ça assez génial, tu vois, parce que tu dis, OK, ça se trouve, ça va être juste des recettes un peu. Tu vois, parce que globalement, c'est assez obscur comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux.
Totalement.
Et donc, je me suis dit, OK, comment les gens, ils savent? Est-ce qu'il y a des gens chez LinkedIn qui expliquent comment ça marche? Je pense pas, c'est pas trop dans l'intérêt. Et du coup, j'ai compris, vraiment, il explique comment vous avez déduit et lui a déduit, enfin, toutes les choses qu'il présente, tu vois. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, en plus, c'est qu'il donne un cadre. Finalement, il donne pas des recettes toutes faites que chacun doit appliquer, il donne un cadre pour faire ses propres expérimentations sur la base de ce qui a marché pour lui, par exemple, mais il incite vraiment à ça, à faire ses propres expérimentations, et il y a un côté vraiment très scientifique qui m'a impressionné, quoi.
Ouais, et puis là, dans le cas de LinkedIn et de Grégoire, faut aussi se mettre en tête quelque chose, c'est que faut toujours partir du principe aussi que les choses ne sont jamais figées dans le temps, et que c'est pour ça que une règle qui vaut aujourd'hui, elle sera probablement différente dans 2 mois. Et les personnes, il y a des personnes qui comprennent très bien ça, c'est les personnes qui font notamment du SEO, puisque à chaque fois qu'il y a un changement d'algorithme de Google, j'étais numéro 1 sur Google, il y a un changement d'algorithme, je me retrouve sur la 3e page, mince, bon bah du coup il faut que je revoie toutes les règles que j'avais en tête et que je redesign tout, et voilà. Donc rien n'est figé dans le temps, et c'est pour ça que le test et la capacité d'exécution, c'est des éléments qui sont extrêmement importants, parce que
et la capacité d'analyse commencer... aussi.
Et la capacité d'analyse, tout à fait. Mais en tout cas, là, nous, ça nous est déjà arrivé de travailler avec des entreprises où les services marketing, ils mettent, en fait, ils voient une règle, par exemple, ah bah sur Google, on a vu que, ou non, sur LinkedIn, pour continuer sur LinkedIn, ah sur LinkedIn, on a lu que, en fait, ce qu'il fallait, c'était faire ça. Bon bah du coup, on va définir une stratégie là-dessus. Et puis en fait, la définition de la stratégie, elle prend 6 mois, et le moment où il se lance, bah en fait, l'algo, il a changé 3 fois. Ouais. Et donc, c'est pour ça que être vraiment dans de l'exécution et tester non-stop, c'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper important, parce que du coup, ça permet d'identifier le moindre décalage de la règle. C'est-à-dire que, ah tiens, là, pendant 3 mois, ce truc-là, il a fonctionné parfaitement, et là, ça fait 2 semaines de suite qu'il fonctionne plus. Ah, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, bon, ben, on va tester des nouvelles choses. Et en fait, là, Grégoire, en fait, lui, il teste tellement non-stop des choses sur LinkedIn qu'il est capable de tirer des conclusions sur la façon dont ça fonctionne, par rapport à aussi son analyse, comme tu l'as dit. Mais il sait aussi pertinemment que ce qui vaut aujourd'hui vaudra peut-être pas dans 3 mois. Et donc, c'est pour ça que nous, là, la formation LinkedIn, elle a une importance forte. C'est que on dit aux gens que de toute façon, nos formations, elles seront mises à jour. Et que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, parce que ben vous achetez une formation, je sais pas, le cas typique de Udemy, moi j'ai déjà acheté de la formation sur Udemy et tout, bah ok, je vais acheter une formation sur apprendre à faire de la guitare, bon bah les guitares c'est toujours les mêmes. Donc une formation qui est sortie il y a 6 ans, bon bah si elle a 1000 votes positifs, je vais me dire bah c'est celle-là qu'il me faut. Une formation Facebook qui est sortie il y a 4 ans, en fait elle vaut plus rien.
Si elle a pas été mise à jour, c'est mort.
Bah oui.
Ouais, non, c'est intéressant. D'ailleurs, il y avait un exemple, il me semble, parce qu'il y a aussi, en plus, comme tu dis, tu vois, ça bouge, et il y a aussi beaucoup de préconceptions ou de rumeurs ou de trucs. Un exemple qui était hyper intéressant. Bon, on m'avait dit plein de trucs sur est-ce qu'il faut mettre des liens ou pas mettre des liens dans un post LinkedIn. Et là, je veux dire, quasi scientifiquement, entre guillemets, enfin, il montre comment il a un peu désamorcé cette rumeur. Il a étudié et fait différents posts, différentes expérimentations pour montrer que oui, tu peux mettre des posts dans ton, enfin des liens dans ton post. Et c'est pas ça qui va faire plonger le reach de ton post. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Enfin, il explique, bon là, je le dis un peu n'importe comment, mais il explique ça très bien. Il parle même sur un truc de faisceau d'indices, un truc comme ça, une espèce de méthodologie. Enfin, j'ai trouvé ça hyper scientifique et mais pas du tout rébarbatif, tu vois. Je sais pas, ça m'a convaincu. Voilà, je voulais partager ça.
Non, c'est beaucoup de. Enfin, c'est quelque chose que le marketing, c'est beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bon sens en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Enfin, en toute humilité, je dis ça, hein, mais en fait, nous, on est des consommateurs et nous, en fait, on voit comment on réagit par rapport aux choses au quotidien. Et donc, naturellement, en fait, quand on voit que quand on fait telle chose sur LinkedIn et qu'on a tel type de réaction et qu'ensuite on prend un petit peu du recul et qu'on se dit ah mais oui mais en fait c'est le truc typique mais les deux premières phrases LinkedIn va te montrer les quatre premières lignes et ensuite va faire un sandwich de ton post avec le petit voire plus bah naturellement tu vois quand t'es sur LinkedIn que quand t'as une espèce de quand sur ces quatre lignes t'as un truc qui t'accroche. Bah, tu vas l'ouvrir le post et tu vas le lire.
Bien sûr.
Et tu vois, et en fait, du coup, naturellement, tu vas te dire, bah attends, faut que je fasse la même chose pour arriver à générer de l'engagement. Mmh. En fait, du coup, tu vas te mettre à tester des approches comme ça. C'est que des choses où je veux dire, les cas typiques de. Enfin, vous êtes sur Facebook, il y a une pub d'un produit, une pub vraiment bien foutue, une vidéo assez canon. Je vais cliquer sur la pub et là je vais tomber sur une page où on va me dire il reste moins 50% sur les 13 prochaines minutes. Je vais me dire oula attends j'ai 13 minutes pour agir, vas-y le produit là 20 euros, bon alors bah au pire j'ai perdu 20 euros, qu'est-ce que c'est 20 euros, vas-y j'achète. Et on voit bien en fait toutes ces trucs psychologiques qui nous arrivent et donc en fait il faut constamment se projeter dans ce genre de choses et effectivement analyser derrière. Mais tu vois, ça passe par des choses un peu bêtes, mais ne serait-ce que sur, encore une fois, pour prendre l'exemple de LinkedIn, plus ton post est vu et plus il y a d'interactions sur ton post et plus il va toucher du monde. Bon, bah, du coup, la métrique à suivre, c'est ton reach ou portée en français. Et en fait, tu vas regarder cette métrique-là et en fait, tu vas tout de suite voir si ton post, il a atteint son objectif ou pas. Je fais une petite parenthèse tout à l'heure, je disais un bouquin de Ogilvy, je me souvenais pas le nom, je viens de le retrouver. Le bouquin s'appelle Ogilvy on Advertising, donc Ogilvy sur la publicité en français. Et j'encourage tout le monde à le lire, c'est un bouquin vraiment top parce que c'est un publicitaire qui n'avait pas internet, qui n'avait pas les outils d'analytics qu'on a aujourd'hui, mais qui malgré tout était dans une vraie grosse démarche scientifique. Et je trouve que c'est une bonne inspiration.
Super, c'est un bon premier conseil pour les gens pour s'y mettre. Bon, écoute, tout ça est hyper intéressant. Il y a un point peut-être où, il y a un truc que j'ai noté dans ce que tu as dit, c'est il peut y avoir un côté sombre aussi dans tout ça, quand même. Tu sais, dans le truc quand tu dis les 13 minutes, tout ça, il y a aussi des trucs
totalement
cognitifs, tu vois, on peut jouer sur des biais cognitifs, des choses qui peuvent être un peu limites, quoi. Mais...
Oui, après, en fait, tout l'enjeu par rapport à ces choses-là, c'est... en fait, il y en a deux. Le premier, c'est son éthique. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est l'image de marque. Parce que, bon, moi qui viens pas du milieu du marketing, au début, j'avoue que moi, j'avais plutôt une image négative du marketing. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon entreprise, je me disais que j'allais être capable de faire du business sans marketing. Enfin, c'est le truc un peu bête, mais...
Il y a tout ce cru.
Mais oui, mais on y a tous. Mais voilà, tu vois, en fait, on croit tous que en fait, ça passe pas par le marketing et tout. Mais non, en fait, tout est régi par du marketing. Et moi, un truc qui me fait rire aussi, c'est j'ai des gens, par exemple, dans mon entourage, j'ai une illustratrice en freelance dans mon entourage qui, en fait, une fois dans une interview, avait dit non, mais bon, moi, ce que je fais, c'est plutôt éthique, c'est pas comme la publicité. Et moi, je lui disais, mais en fait, quand tu envoies tes scripts à des éditeurs, tu crois que tu fais quoi, en fait? T'es en train de te vendre. C'est ça aussi le marketing. C'est-à-dire que quand on envoie un CV à une entreprise, une lettre de motivation, c'est du marketing. En fait, au quotidien, on essaye de se vendre, etc. Alors après, oui, effectivement, on n'est pas une marque de cigarettes et on essaye de faire croire aux gens que, désolé pour les fumeurs, mais on n'essaye pas de faire croire aux gens que fumer c'est la liberté. Bon, voilà. Mais moi, je pense déjà au fait que en 2020, ce genre de choses, les gens voient tellement de pubs au quotidien qu'ils se rendraient compte que des messages comme ça, c'est quand même vraiment, vraiment limite. Donc bon, il y a ce côté un peu éthique et le côté image de marque aussi qui est hyper important. Donc oui, comme je le disais, j'aimais pas trop le marketing et pour moi, image de marque, ouais, bon, voilà. Mais la réalité, c'est qu'une marque, c'est hyper puissant. Un nom, ça peut être hyper puissant. Et quand on pense à Nike, il y a des images qui nous viennent en tête. Quand on pense à Puma, il y a des images qui nous viennent en tête. Quand on pense à Apple, il y a des images qui nous viennent en tête. Et donc, est-ce qu'on a envie que l'image associée à notre entreprise, ce soit ce compteur avec « il reste 13 minutes » et en fait, quand j'y retourne le lendemain, je retombe sur le même compteur, il reste 13 minutes.
Déjà, juste de faire des soldes, des réductions, des pubs sur des réductions, c'est déjà en soi un message. On peut déjà se dire, est-ce que je veux vendre au rabais mes
produits ?
Enfin, tu vois, tout est des choix en fait qui sont liés comme ça au marketing et tout.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, tout est. Il faut absolument réfléchir à ça. Tu vois, là, actuellement, au moment où on parle, du coup, nous, on est en train de faire tourner un truc avec Germinal avec un prix barré. Donc, tu vois, je peux en parler. Mais nous, là, le gros sujet chez nous, on met un prix barré. Pourquoi ? Parce que on considère qu'on est encore dans une phase de bêta avec notre produit. Et donc, on n'est pas capable de. On ne peut pas faire la promesse à la personne que. Le produit sera exactement parfait comme nous, on souhaite pouvoir lui délivrer. Donc, on fait un deal avec les gens en leur disant, écoutez, le produit, il n'est peut-être pas parfait, mais on vous garantit qu'on va tout faire pour qu'il soit parfait et on va tout faire pour qu'il soit parfait pour vous. Du coup, on vous fait un prix et vous acceptez le fait qu'il n'est pas parfait pendant un temps. En fait, tu vois, l'approche, c'est pas du tout la même.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, t'as ton prix barré, mais c'est pas « il reste 13 minutes, moins 50% avant rupture de stock ». Tu vois,
c'est plutôt un message de sincérité et d'honnêteté par rapport
exactement.
À ce qu'on voit.
Donc, tout est constamment à remettre dans du contexte, etc. Et effectivement, après, même d'un point de vue technique de growth hacking, il y a des gens sur du scraping de données, vu que j'en parlais tout à l'heure. Ils font des trucs, tout ce qui concerne le Cambridge Analytica, l'affaire Cambridge Analytica, par exemple. Je recommande le documentaire sur Netflix concerne cette histoire, un documentaire incroyable. En fait, les mecs, ils ont réussi à faire élire Donald Trump en faisant du scraping massif et de l'analyse de données, etc. Là, voilà, où est-ce que je positionne mon curseur par rapport à ça ?
Non, c'est très impressionnant au niveau de la collecte de données. Là, c'est vraiment du hack en plus. Sans pirater Facebook, ils ont tiré profit des failles, des largesses
exactement.
De Facebook, on va dire, à l'époque sur les données. Mais après, ce qui est très impressionnant dans ce cas-là, là, on sort un peu du gros hacking, mais c'est l'analyse et le traitement de ces données pour recouper, faire des profils et toucher d'autres gens. Un peu ces fameuses audiences similaires que Facebook lui-même propose, mais bon, un peu en mode boîte noire, etc. Là, ils l'ont fait ça à grande échelle et de manière extrêmement fine, quoi.
C'est vraiment le côté hyper impressionnant. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière les algos d'analyse de Cambridge Analytica, mais mon Dieu, quoi, c'est incroyable. Ils sont allés, ils ont une compréhension des choses, mais qui est inégalée.
Il y en a, ils dorment plus très bien maintenant, par contre,
oui.
C'est un autre problème. Bon, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes, mais avant qu'on passe un peu sur les outils et justement qu'on rentre tout ça sur le côté no-code, dis-nous un petit peu justement Germinal ce que vous faites, un peu pour résumer, parce que là on a un petit peu tourné autour.
Alors, nous Germinal, sur les deux premières années de vie, donc en gros jusqu'en mars, 2020, on accompagnait les entreprises dans la mise en place et l'exécution de stratégies de growth. Donc ça passait par ce qu'on appelle des missions commando. Donc en fait c'était des missions en temps normal, nos missions elles durent entre 4 et 6 semaines, et en fait c'est 4 à 6 semaines hyper intensives où on va se voir une fois par semaine. Et en fait on va se voir une fois par semaine et on va définir par rapport aux différents enjeux, à la marque, etc., un plan d'action pour la semaine. Et en fait, nous, ce qu'on fait derrière, c'est entre deux rendez-vous, on va en interne déployer des actions. Donc, ça va être déployer des landing pages, donc des pages de vente, des publicités, des petits hacks auxquels qu'on va identifier, des campagnes de mailing, enfin, peu importe. Et ensuite, chaque semaine, on va lancer des nouveaux tests. Et pendant qu'un test est en train de tourner, on est en train d'analyser le précédent. Et donc, chaque semaine, on arrive avec un nouveau niveau d'analyse et cette analyse-là va nous permettre de définir les prochains tests. Puisque bah, du coup, on aura fait des tests qui auront complètement échoué. Donc, on se dira, OK, ça sert à rien de creuser. On aura eu des tests qui auront été pertinents et on se dira, OK, donc là, maintenant, comment on peut faire pour optimiser ça et augmenter le taux de conversion, augmenter l'acquisition, etc. Donc, voilà. Démarche, encore une fois, hyper scientifique. Donc, ça, c'était vraiment sur les deux premières années. Donc, on a une équipe en interne qui s'occupe de faire ça. Donc moi au début j'étais growth, donc je m'occupais de mettre en place les différentes actions et puis ensuite je suis passé en responsable client. En interne c'est ce qu'on appelle des growth strategists, donc c'est des personnes qui s'occupent de définir les différentes stratégies et de s'interfacer avec les équipes pour s'assurer que la stratégie qui a été définie est correctement mise en place. Et là depuis le mois de mars on a une activité on a un peu shifté, on a une activité de formation qui a été lancée, donc on vendait des formations, donc une formation Facebook, Google, etc., des formations comme ça uniques que tu peux acheter à l'unité. Et en fait, beaucoup de personnes qui nous achètent nos formations viennent parce que en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment comprendre notre méthodologie de travail chez Germinal. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la chance d'avoir une réputation qui est... en fait, on est un peu des brutes, on va vite, on est à fond dans l'exécution, ce qu'on exécute, c'est plutôt bien fait, on a une vraie capacité d'analyse, tout va très vite, on est hyper processisé, etc., ce qui est génial. Mais du coup, les gens, en fait, et notamment les personnes qui n'ont pas les moyens de prendre une presta chez nous, se disent « bah ouais, mais c'est cool, mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose ». Et donc... ils achètent nos formations avec l'espoir qu'ils sauront s'approprier notre méthode de travail. La réalité des choses, c'est que quand on achète une formation Facebook Ads, ben on apprend à faire des Facebook Ads peut-être à la méthode Germinal, mais qui n'est pas non plus une méthode révolutionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui l'appliquent. Mais la clé, en fait, dans notre méthode, c'est pas la maîtrise d'un canal. C'est la méthode, c'est la méthodologie qu'on utilise au global. Notre état d'esprit, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vu qu'en interne, on processise tout, on documente tout pour permettre à n'importe qui de junior qu'on recrute de devenir opérationnel hyper rapidement. Et ben en fait, on a mis au point un outil, en fait, un produit qui s'appelle l'antichambre et qui en fait donne l'accès à l'ensemble de notre catalogue de formation, mais aussi l'ensemble de notre méthodologie, nos benchmarks. C'est-à-dire que nous, au quotidien, on analyse, on a un client dans le domaine bancaire, et ben on va classer ça dans un tableau en disant OK, actuellement dans le bancaire on a tel taux de conversion sur nos pubs Facebook, tel taux de conversion sur nos pubs Google, etc. Et ça nous permet au quotidien de pouvoir nous dire OK, ça c'est le chiffre à battre, ça c'est la moyenne du marché, c'est le chiffre à battre. Et donc nos clients, quand on les conseille, on est capable de leur dire bah écoutez, vous là sur nos pubs Facebook on a un taux de clic de 2%, sachant que la moyenne du secteur bancaire elle est à 1, donc nos pubs là en ce moment elles cartonnent. Et donc, on a en fait, on a designé tout un produit autour de ça. Et en plus de ça, on y a ajouté une partie qui était très demandée, qui est la partie communauté. Donc, on a une communauté privée où les personnes sont en contact au quotidien avec nos équipes. Et donc, si jamais tu as besoin de te faire challenger sur quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour te donner des tips. Et on partage nos chiffres, on partage...
Ok, super. Moi, c'est très clair. Petite question justement pour commencer à parler des outils. Qu'est-ce que vous utilisez pour la formation ? Ça, c'est plus, je demande un peu aussi à titre de curiosité, comment on est là-dessus aussi.
Ouais, alors, donc encore une fois, vu qu'on est vraiment dans de l'exécution et on va vraiment chercher à faire les choses le plus rapidement possible, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, là, l'antichambre, donc notre produit l'antichambre, il est sorti en 8 jours. Et ça, c'est grâce à des outils de no-code. Donc nous, au quotidien, pour faire nos sites web, on utilise Webflow. Okay. Donc Webflow, tous nos sites, toutes nos pages de vente et tout sont faites sur Webflow. Ensuite, on a, pour gérer le back-office des formations, puisque c'est des formations en e-learning, Donc, il faut héberger les formations, qu'on traque l'utilisation des gens, que les gens puissent s'inscrire, accéder au contenu, payer, etc. On utilise Thinkific, ça s'appelle. Thinkific, c'est un équivalent de Teachable.
Ouais, d'accord. Vous en êtes content? C'est marrant parce que Shubham de la chaîne Digital Wink m'en parlait il y a quelques jours justement. Elle me disait qu'il fallait absolument que je teste ça. Nous, on utilise Podia, qui est un petit peu comme Teachable, mais en simplifié. Mais pareil, dans cette logique d'exécution, on aime bien Podia parce que ça va très vite pour mettre des contenus en ligne et tout. Mais ok, un petit retour sur Thinkific.
C'est le feu. Okay. non mais en fait ouais, Thinkific, je pense que c'est la plateforme la plus aboutie. En fait, ce qu'on fait systématiquement, pareil dans la démarche de gagner du temps, nous ce qu'on fait quand ok, on cherche une plateforme pour héberger nos formations, faire du tracking, etc. Nous, on se forme beaucoup chez Germinal, et donc on va tout de suite penser à c'était quoi les meilleures expériences de formation qu'on a vécues. Et donc on va penser à des, je sais pas, à des marketeurs américains par exemple. On achète pas mal de formations à des marketeurs américains, des trucs comme ça. Et en fait, on va se dire ok, eux ils utilisent quoi. Et donc on va aller sur leur site, on va vérifier, on va aller dans le code source, on va aller regarder parce que dans le code source il y a forcément un endroit où il y a écrit
l'info.
L'info. Et en fait, on a remarqué qu'il y en avait pas mal qui utilisaient Thinkific.
Okay.
Et l'expérience, elle était vraiment géniale, quoi. Et donc, en fait, on s'est dit, bon, eux, ils l'utilisent. On va partir du principe qu'ils ont fait le taf avant nous. Donc, posons-nous pas trop de questions. Mettons Thinkific. De toute façon, on a vu que même quand on se projette, parce qu'au début, on ne sait pas si ça va marcher. Même quand on se projette, bon, et du coup, si ça marche, de quoi on va avoir besoin? Ben, on va avoir besoin de la connexion API, on va avoir besoin de machin. Ok, est-ce que ça se gère sur Thinkific? Oui, ok, let's go. Et la décision, elle se prend assez rapidement.
Ça, c'est un bon point. Souvent, on incite les gens à regarder ça quand ils étudient des outils. C'est tout un sujet, hein, l'étude, quels outils choisir pour mon projet, comment constituer sa stack, un peu nos codes. Et souvent, on dit ça, on dit, regardez les intégrations, les capacités d'intégration. Alors, soit par API, soit est-ce qu'il y a une intégration native dans Zapier. Ces choses-là, ça donne des super indices parce que, en général, des outils qui n'ont pas ce genre de truc, je pense qu'il faut s'en méfier. Et puis surtout, ça va limiter l'utilisation, quoi. Mais je trouve que ça montre pas en plus une logique. Moi, j'aime bien les outils qui sont très ouverts. Donc, il y a cette logique de proposer, de s'interconnecter à d'autres choses, quoi.
Exactement. Et moi, tu vois, mon premier réflexe, je suis un grand fan de Zapier. Mon premier réflexe, c'est je vais sur Zapier et je vais voir si y a Thinkific.
Ouais, ah, non, c'est super.
C'est parce que je sais en fait qu'à partir du moment où l'outil est sur Zapier, il y aura possibilité de bricoler des trucs assez rapidement en fait.
Ouais, ouais, c'est clair.
Donc
ça permettra de compléter ce qui éventuellement ne serait pas possible à faire dans Thinkific directement par ailleurs. Et c'est ça qui est super aussi, ça permet d'étendre les fonctionnalités, quoi. On peut faire plein de choses.
Tout à fait. Donc ça, c'est concernant l'hébergement des formations, le fait, les lecteurs, etc. Et ensuite, là, pour la partie antichambre, donc en gros, on a ce qui se passe, c'est quand tu arrives sur l'antichambre, tu te crées un compte. Du coup, il faut qu'on puisse te prendre ton paiement, sachant que c'est un paiement récurrent parce que c'est un abonnement. Ouais. Donc, il faut trouver l'outil qui va te permettre de prendre de l'abonnement récurrent. Et ensuite, il faut un espace privé pour les utilisateurs.
Ouais.
Et donc bah ok, comment on fait? Et en fait, on a trouvé, sachant que nous, l'idéal, ça aurait été de trouver un outil qui nous permette d'avoir un espace privé, mais dans Webflow, parce qu'on maîtrise parfaitement Webflow. Et donc, on a trouvé un outil qui s'appelle MemberStack. Et donc, MemberStack, c'est un outil qui te permet de prendre du paiement récurrent, donc les personnes, elles peuvent s'inscrire. En fait, globalement, ça te fait, ils te mettent à disposition une pop-up d'inscription, une pop-up de connexion. Donc sur une page tu mets ta pop-up d'inscription et puis sur une autre page tu mets ta page de connexion et puis là t'as le login et le mot de passe, et en fait c'est complètement transparent parce que c'est intégré dans Webflow, mais c'est du MemberStack. Et ensuite ce que MemberStack te permet de faire, c'est de rendre privé des URL. Donc quelqu'un qui n'est pas enregistré, qui ne s'est pas connecté via le sign-in MemberStack, en fait va se retrouver et accède à une URL qui est privée, et ben naturellement MemberStack va détecter cette personne grâce aux cookies et à l'IP et va le renvoyer vers la page de connexion. Et donc en fait, tu vois, en utilisant ces outils là qui sont des outils no code, et ben on a Webflow, ok, la personne elle arrive sur la page de vente, elle s'abonne via la pop-up MemberStack, elle arrive sur un espace privé qui est Webflow, et dans l'espace privé Webflow, il y a un bouton « Accéder à mes formations », et quand elle clique sur « Accéder à mes formations », elle se retrouve sur Thinkific. Mais tout ça est transparent.
Ok, donc il y a une connexion entre direct, entre Webflow et Thinkific, je sais pas, par une URL, un truc comme ça, qui fait que les gens, ils n'ont pas besoin de se reconnecter sur Thinkific.
Exactement. En fait, bah, au début, pour tout te dire, au début, là, quand on a lancé, ce qui se passait, c'était que quand la personne elle se connectait avec MemberStack, elle achetait, donc elle prenait un abonnement sur MemberStack, ensuite moi sur Zapier, je l'onboardais, donc je l'intégrais dans Thinkific. Donc ça lui créait un compte Thinkific mais via Zapier, puisque ben il y a pas de connexion entre les deux outils. Et donc la personne en fait, elle recevait deux emails, elle recevait un email qui lui disait bienvenue à l'antichambre et un email qui lui disait bienvenue dans nos formations. Et en fait, il fallait qu'elle se crée un mot de passe séparé pour accéder aux formations. Et en fait, le truc, c'est que bah, cet email-là, les gens, parce qu'on sait tous, enfin, on voit tous comment on est, hein, quand on reçoit l'email de bienvenue, on l'archive parce que tous les emails de bienvenue disent la même chose.
Ouais.
Donc là, en fait, ce qui se passait, c'était que les gens, bah, ils faisaient ça, mais sauf que du coup, quand ils voulaient accéder aux formations, ils nous disaient « Mais je comprends pas, ça me demande un mot de passe, je croyais que j'avais accès aux formations à l'intérieur du truc, vous êtes en train de m'avoir et tout. » Et nous, on disait « Mais non, mais c'est bien inclus, mais c'est juste que t'as pas créé ton mot de passe, t'inquiète et tout. » Et en fait, du coup, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé que Thinkific avait la possibilité de faire du SSO. Donc SSO, c'est Single Sign-On. Et donc, c'était en fait de transmettre par API. Donc là, on rentre un peu dans des trucs techniques, hein, mais de transmettre... En fait, quand la personne, elle se crée un compte sur MemberStack, bah, ça lui crée exactement le même compte sur Thinkific et ça vient récupérer les informations d'IP. Et donc, quand la personne, elle clique sur « Accéder à mes formations », ça la connecte automatiquement à Thinkific. Et donc, c'est ce qui permet aux gens de faire ça de manière totalement transparente. Mais du coup, pour ça, j'ai eu besoin de l'aide de l'équipe produit, parce que maintenant, on est une équipe produit pour gérer ça en interne. Et donc, dans l'équipe produit, on a un développeur et donc c'est lui qui a mis en place ça.
Okay.
C'est la limite du no-code à ce moment-là.
Ouais, non, mais bon, après, voilà, no-code, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel à des développeurs quand il y en a.
Ah, tout à fait. Mais en tout cas, pendant tu vois, les deux premiers mois, en fait, ça allait. C'était juste que du coup, on avait du support client à faire parce que les gens nous contactaient en disant « mais je ne comprends pas » et tout. Et on leur disait « alors attendez, vous inquiétez pas, voilà, reprenez ce mail-là. » Et après, ils disaient « ah ok, c'est bon, ça marche. » Ou tu vois, le truc typique, c'est « ah ouais, mais j'ai supprimé le truc. » Je dis « bah, allez sur la page et mettez mot de passe oublié. » Ils mettaient mot de passe oublié et après c'était réglé, tu vois. Mais c'est bon, en termes d'expérience client, c'est pas idéal, mais encore une fois,
ça vous a permis de vous lancer et d'avoir les...
Exactement. On est dans l'exécution et on valide des hypothèses, parce que encore une fois, il faut partir du principe que on ne sait pas si notre produit va intéresser les gens. En fait, si ça se trouve, ça va intéresser personne.
Donc, achète ton SSO, il te sert à rien, quoi, en fait.
Mais oui, en fait, ça sert à rien de passer une semaine à mettre en place un SSO si au final j'ai pas de client.
Ouais.
Donc bricolons un truc, lançons le truc une semaine en avance, et comme ça, ça nous permet de pouvoir prendre des décisions, de prendre les meilleures décisions possibles.
Ah, non, c'est hyper intéressant. Et puis, vous avez eu besoin d'un développeur, au final, sur un point très limité.
Oui.
Pour lui, en plus, c'était plus intéressant, d'ailleurs, de faire ça. Souvent, les développeurs, ils aiment bien quand même un peu les challenges techniques. Donc, faire ça plutôt que d'avoir à faire un espace client, comme il a déjà fait à 10 minutes.
Exactement, exactement. Et puis, l'avantage aussi du no-code concernant l'espace client, typiquement, c'est que bah, n'importe qui dans la boîte, vu que à peu près n'importe qui dans la boîte maîtrise Webflow, n'importe qui peut, s'il identifie une coquille, aller la corriger. C'est un truc bête.
Non, c'est un des grands avantages de Webflow. Mais je veux bien que tu m'en dises un peu plus après sur ce que vous faites avec Webflow aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, enfin, j'avais juste une petite anecdote en passant, mais il y a quelques semaines, j'étais en contact avec des gens chez MemberStack et je leur demandais notamment de me dire des exemples de sociétés qui avaient implémenté MemberStack avec succès, et ils m'avaient donné l'exemple de vous et de l'antichambre.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est dingue. Je n'avais pas du tout connaissance de ça. Je d'accord, c'est cool. Et ben je vais leur demander des coupons, des trucs comme ça, alors.
Ils sont au courant. Et non, c'était cool. Donc du coup, ça, je savais déjà avant qu'on se parle.
Génial.
J'ai vu
ouais, c'est fou.
Oui, alors sur Webflow, dis-moi un peu comment vous utilisez, parce que donc ça, c'est votre usage interne. Est-ce que vous utilisez aussi Webflow pour vos clients? Quels sont les
avantages
sur l'acquisition, les landing, tout ça?
Ouais, alors, on utilise Webflow, peu importe la page web qu'on fait, on la fait sur Webflow. Pourquoi ? Parce que parfois, dans plein de cas, et d'ailleurs on a un peu des réflexions en interne sur ce genre de sujet, mais Webflow, c'est quand même, c'est un outil no code, mais c'est quand même la liberté. C'est-à-dire que, à la différence d'un outil type London, parce qu'on parle pas mal de London aussi en interne, pour les personnes qui connaissent pas, donc c'est un outil pour créer des pages web aussi. Mais, en fait, on est hyper guidé. Ils nous disent, OK, c'est quoi votre domaine? C'est quoi votre style? C'est quoi vos couleurs? Et bim, il y a une page web qui est créée comme ça, avec des illustrations un peu cool, une typo un peu sympa, etc. Mais bon, c'est du standard, c'est-à-dire que notre site web, il va ressembler à 1500 autres. Mais l'avantage, c'est que bah voilà, en 30 minutes, j'ai mon site web qui est en ligne. Webflow, c'est la liberté. Donc ça a son lot d'avantages et d'inconvénients. L'inconvénient, c'est que ben quand on est trop libre, on sait pas quoi faire. Et puis en plus de ça, il y a une barrière technique à l'entrée de ils se basent sur le langage HTML et CSS, et du coup si on n'a jamais lu ne serait-ce qu'une doc HTML ou CSS, on peut être un petit peu perdu et pour gérer du responsive ou des choses comme ça par exemple. Mais l'avantage, c'est peu importe le client avec qui on travaille, on va être en mesure de s'adapter à son identité. En fait, on va être en mesure de designer les choses comme on veut, de faire des funnels de conversion comme on le souhaite. Enfin, ça offre toute cette liberté. Et donc, naturellement, en fait, on s'est tourné vers Webflow depuis le tout début. Et même si pour certains clients, en fait, c'est des clients avec des identités pas très, très poussées, ça pourrait être fait via une template sur Weblium, par exemple. On a un peu des réflexions actuellement sur Weblium pour une certaine typologie de clients qui pourrait nous faire gagner du temps. Mais globalement, ça nous offre la possibilité de pouvoir s'adapter à n'importe qui, n'importe quand. Et en fait, le top du top, c'est quand on va commencer à travailler avec un client et qu'on va dire on va designer des landing pages, on a une landing page à faire et ensuite on la décline, et derrière ça va être avant tout du copywriting qui va être modifié ou quelques éléments de bloc, etc. Mais une fois que la première landing page elle est faite, après derrière ça déroule quoi, on peut en faire une cinquantaine rapidement. Donc c'est vraiment ça le truc parfait quoi.
Vous avez une designer en interne, ou comment vous faites sur le côté justement visuel? Parce que ça c'est un peu un truc de Webflow. Il y a à la fois ce côté technique où c'est vrai que c'est très important de connaître le HTML, CSS. Ça c'est une des barrières qui est mince quand même. Mais il y a cet autre côté aussi dans Webflow, que quand t'es face à ta page blanche, si tu connais rien en design, en réalité tu vas pas aller
trop loin. Oui, c'est vrai. Alors. Là-dessus, pareil, on a pas mal itéré sur les process. Les choses, elles évoluent aussi. Donc, pour travailler avec les clients, on a un process qui est, si le client, encore une fois, a une identité pas très poussée, les growth en interne, qui s'occupent donc de faire notamment de l'intégration, vont s'occuper de prendre la création des landing pages de A à Z. Parce qu'en fait, l'enjeu de design, il va pas être très important, et donc il suffit globalement de reprendre les codes, et on va sur le site internet du client, on se dit qu'on reproduit quelque chose d'à peu près similaire, et puis ensuite, après pour les clients qui ont des identités quand même plus importantes, où vraiment le design c'est partie intégrante de la marque, là on a un designer qui fait un design sur InVision. Donc, qui design complètement une landing page sur InVision, et ensuite, là, il y a un intégrateur qui s'occupe de la mettre sur Webflow. Et en fait, sur InVision, pareil, il te donne le HTML et le CSS, donc en fait, c'est globalement du copier-coller. Ouais. donc ça, c'est ce qu'on fait avec les clients. Et après, moi, dans ma team Market, je travaille avec Léo, qui était d'ailleurs, qui est un ami à moi avec qui j'avais monté ma précédente boîte avant de travailler chez Germinal. Et lui, en fait, c'est un designer et intégrateur. Et donc, en fait, lui, il s'occupe de designer directement dans Webflow.
Ça, c'est le meilleur.
Ah ouais, non, mais ça, c'est parfait, parfait. En plus, lui, il est vraiment excellent. Et donc, si par exemple, vous allez sur le site germinal.io ou antichambre.germinal.io, tout a été fait par Léo, le design, l'intégration, etc. Et en fait, le mec est juste, c'est un malade, il est vraiment beaucoup trop fort. Et ça, c'est vraiment le cas idéal. Moi, au début que je travaillais chez Germinal, du coup, on n'avait pas de designer, à part pour des cas vraiment hyper spécifiques. Tu vois, par exemple, on a travaillé pour la société La Laitière. Bon, La Laitière, c'est entreprise très à l'ancienne, le design c'est hyper codifié, machin, donc là on avait mis un designer sur le coup, mais sinon moi je m'occupais directement de faire design et intégration moi-même depuis Weplo. Je suis pas designer, j'ai une sensibilité au design qui est ce qu'elle est, mais effectivement si t'as une petite sensibilité au design et que tu maîtrises Weplo, derrière après tu fais un peu ce que tu veux. Alors oui, effectivement c'était pas le top du top en termes de design de landing page, mais ça faisait quand même bien le boulot.
Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est une question de sensibilité, et puis ça s'apprend aussi, il y a des codes, il y a des
tout à fait.
Je veux dire, tu peux éduquer ton œil, tu vois, apprendre les références, et puis après tu peux aussi faire des petits systèmes, réutiliser un peu toujours les mêmes typos, enfin il y a des petites recettes comme ça.
Oui, et puis après bon, moi tu vois, je trouve que quand on travaille avec quand on travaille avec des clients, en fait déjà le travail identitaire, c'est pas nous de le faire, c'est eux qui l'ont fait. C'est-à-dire que nous on va pas leur réinventer leur identité. Nous il faut qu'on applique leur identité sur une nouvelle stratégie qu'ils sont pas encore exploitée. Donc en soi, à partir du moment où tu vois ça passe par des extensions Chrome, Colorzilla, des trucs comme ça, tu identifies OK, les couleurs majeures de la marque, c'est ces trois couleurs là. En typo, ils utilisent ça en titre et ça en texte. Et au niveau des images, ils utilisent des images de gens ou des illustrations ou machin. Bon, bah déjà, t'as lu ça, t'es capable de faire des choses.
Ouais, non, carrément. Ouais. Ouais, non, je suis vraiment. C'est hyper intéressant de voir vraiment cet usage de Weplo bien aligné sur un peu ce que les avantages et un peu les limites aussi que.
Tout à fait.
Ce que je voulais parler, c'est d'un autre point, alors forcément qu'il faut qu'on aborde, c'est l'automatisation, parce que c'est un peu le trait d'union, on va dire, un peu entre les gros hackers et les no-codeurs.
Totalement.
C'est ces outils-là, notamment Zapier, qui font vraiment, je trouve, enfin, souvent les gros hackers qui arrivent chez nous, c'est, on voit qu'ils ont toujours souvent des bons niveaux sur ces outils-là, parce qu'il y a eu un vrai enjeu, une vraie application. Donc, dis-nous un peu ce que vous utilisez, dans quel contexte, que ce soit pour vos clients, pour vous, enfin.
Alors nous, l'outil d'automatisation ultime, c'est Zapier. Je pense que toutes les personnes de votre communauté, ça doit être pareil.
Chromat aussi qui est très fort aussi dans la communauté No Code.
Ah ouais, c'est vrai. Alors j'ai déjà checké, mais j'ai jamais testé. Nous, on a testé un autre truc. Je me souviens plus le nom. Un peu dans le même genre, tu saurais me donner des noms. Je crois qu'il y a un P dedans, je me souviens plus.
C'est vraiment les deux de loin, c'est quand même ces deux-là. Après, il y a des choses, d'autres choses qui existent, mais.
Ouais, je me souviens plus. Il y a un outil d'automation là. Il faut que je me souvienne. Mais en gros, on a aussi utilisé un autre outil. Je me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout ce que c'est, mais qui était vraiment vraiment puissant aussi.
Phantom Buster.
Alors, on utilise Phantom Buster, mais tu vois là, c'est pour un cas vraiment particulier de tout ce qui concerne le scraping, etc. C'est Parabola, l'autre outil.
Ah oui, Parabola. Mais Parabola, en fait, enfin, effectivement, ça peut être aussi un outil d'automatisation. C'est un outil qui est très bon, surtout pour le traitement des données, en réalité.
Exactement. Nous, c'est sur ces sujets-là qu'on l'utilise.
Ah oui, oui, non, Parabola, c'est extraordinaire. Mais il y a beaucoup moins d'intégration, en fait. C'est pour ça que c'est.
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on l'utilise en parallèle de Zapier sur des sujets bien particuliers. On utilise Phantom Buster effectivement pour tout ce qui est scraping ou envoi de messages automatiques sur LinkedIn, sur des plateformes, etc.
Ça, pour le coup, c'est vraiment la référence des gros hackers.
Ouais, tout à fait.
J'espère un jour finir par avoir quelqu'un de Phantom Buster sur ce podcast aussi. C'est bon.
Ouais, ce serait top. Ce serait top.
Mais ça viendra justement dans cette lignée de.
Ouais. De code. Ouais, il faut, et puis ils sont bons, donc voilà, il faut, ouais, et puis ils sont français, donc c'est top. Donc outil d'automatisation, donc ouais, Phantom Buster, Zapier.
Justement sur Zapier, par exemple, si c'est celui que vous utilisez le plus.
Pardon ?
Vous en servez vous de Zapier du coup ?
Bah en fait, j'ai envie de te dire, moi de mon côté. Si tu me laisses, n'importe quel outil, donc on parlait de MemberStack, Thinkific, etc., un Zapier et un Google Spreadsheet, et je suis heureux, globalement. Donc, c'est-à-dire que Zapier, nous, on l'utilise. Alors, je vais te parler de deux utilisations quand même bien distinctes, mais Un, on a une utilisation de manière hyper simple sur des process, comme je disais tout à l'heure, à savoir, bah, quelqu'un s'enregistre quelque part et ça push de la data sur, enfin, ça envoie de la donnée sur un Google Spreadsheet, et ensuite sur notre Google Spreadsheet, ça nous permet de pouvoir faire du reporting, du suivi, tu vois, des choses comme ça.
Vous n'utilisez pas Airtable sur la partie base de données?
Eh ben, non. Et alors, je savais que tu allais m'en parler, tu vois, je savais, parce que ça, je sais que c'est un outil no code ultime. Et bah, tu sais quoi? On n'a jamais réussi à passer le pas. On n'utilise pas Airtable.
Ok. Bon, bah après, si vous avez toutes vos vies dans des tableurs et tout, je veux dire. C'est...
Ouais, mais en fait, on est convaincu. On a eu une grosse conversation il y a quelques temps concernant Airtable. En fait, nous là aujourd'hui, en gros, le process en interne, c'est au début on bricole et le meilleur moyen de bricoler, c'est les Google Spreadsheets. Donc, on bricole sur notre Google Spreadsheet et ensuite, une fois qu'on déploie de manière un peu massive, parce que on a validé toutes les hypothèses, on sait que c'est un truc qui roule et tout. On gère ça directement en base de données et on utilise Forest Admin, je sais pas si tu connais.
Ouais. Alors,
on utilise Forest. C'est
un développeur pour le coup, mais...
Ça, c'est un outil de développeur, voilà. On utilise Forest pour gérer tout, de la partie admin, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, c'est un vrai outil de gestion à gérer avec développeur et qu'une vraie base de données derrière. Et en fait, parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit le tableur trouve ses limites, mais Forest, c'est trop lourd. Et du coup, on est coincé dans ces moments-là et on se dit, mais mince, comment on peut gérer? Et donc, on continue de faire du spreadsheet un peu bricolé et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là, on se dit, bah, tu vois, là, il nous faudrait du Airtable.
Bah, je pense qu'effectivement, Airtable, c'est exactement le milieu entre les deux, quoi. C'est d'ailleurs.
Exactement.
Site, hein, s'il se présente comme ça, hein, moitié tableur.
Tout à fait.
Données. C'est une vraie base de données relationnelle, comme une base SQL, mais avec la simplicité d'utilisation. T'as un peu le back-office fait directement, t'as les vues, enfin, je vais pas faire le
commercial.
Mais... C'est un de mes outils préférés, donc c'est vrai que je m'en lasse pas d'en parler, mais...
Mais tu n'es pas le seul à nous en parler et pour qui c'est un outil préféré. Et nous, tu vois, on travaille beaucoup avec... Enfin, on discute beaucoup avec Start the Fuck Up, je pense que tu vois qui c'est, qui travaille sur du prototypage de projet, etc. Et une fois, je parlais avec Michael qui travaille beaucoup sur tout ce qui est automatisation, prototypage et tout. Et du coup, il me disait, ah ouais, du coup, Airtable, machin. Et je disais, bah, nous, on n'utilise pas Airtable. Il m'a dit, mais non, mais tu rigoles, là, j'espère. Mais tu rigoles. Et en fait.
Weblium aussi.
Et oui, et ben, c'est lui le premier à m'avoir parlé de Weblium en plus. Donc, voilà, petite dédicace, Michael. Et en fait, ouais, on n'a jamais passé le pas. Et en fait, je pense qu'on n'a jamais passé le pas parce que personne chez Germinal n'a jamais utilisé Airtable. Et en fait, du coup, tu sais, il y a ce temps de prise en main, de machin. Et puis, tu vois, la logique spreadsheet, moi, maintenant, je l'ai. C'est vraiment un truc, genre, j'arrive à penser tous mes process en spreadsheet. Et du coup, je me dis, mais si je débarque sur Airtable, sachant que je n'ai pas la mentalité Airtable, je vais faire un truc et je vais devoir le péter la semaine suivante parce qu'en fait, j'aurais découvert des nouveaux trucs, etc. Et du coup, tu sais, c'est cette espèce de barrière de non, mais en fait, je vais y passer ma vie déjà à faire les trucs correctement.
C'est un... mais bon, c'est comme tout, hein. C'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, on a.
Ah oui, c'est ça.
Okay, on va prendre le temps de se former puis de migrer. Mais on devrait faire un deal. Je vous passe une formation à Airtable et vous me passez une formation à LinkedIn. Un truc comme ça.
Écoute, franchement, why not? Parce que, en fait, comme je te l'ai dit, on a envie de s'y mettre. En fait, on a l'envie parce qu'on y croit. On croit au fait que c'est un outil qui va révolutionner pas mal de choses en interne. On n'a juste pas passé le pas. Donc franchement, deal, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est avec plaisir. Mais du coup, voilà, en gros, tu vois, sur les outils d'automatisation, pour revenir un petit peu notamment sur Zapier, je te disais, bah voilà, il y a les systèmes d'onboarding où effectivement on va connecter des outils un peu simples, on va envoyer de la data sur un spreadsheet, des trucs comme ça. Le deuxième, après, il y a un cas pratique vraiment particulier qui est que, en gros, vu qu'on essaye de processiser plein de choses en interne, pour gagner un maximum de temps, je vais te donner un cas, le cas typique. Ça va être, alors non, juste pour finir sur aussi le truc de base, tu vois, un autre cas pratique de truc de base. Nous, sur Internet, pour faire une demande, sur notre site Internet, pour faire une demande de devis, c'est un Typeform. Et du coup, on fait une connexion entre Typeform et notre CRM avec Zapier. Voilà, basique. On envoie les informations, on fait un calcul dans Zapier pour calculer pour scorer en fait le lead, et puis ensuite on l'envoie soit le lead on considère qu'il est de très mauvaise qualité et du coup on lui envoie automatiquement un email en disant bah désolé, on va pas pouvoir travailler ensemble, soit on considère que c'est un lead avec qui il faut aller plus loin et on l'envoie dans le CRM, tu vois, c'est le cas un peu de base. Et après par contre on essaie de développer vraiment des process qui permettent de faire gagner du temps aux équipes en interne. Et donc le cas un peu typique, c'est une fois qu'on a signé un deal avec une entreprise, on va sur la partie mission commando que j'ai expliqué tout à l'heure, donc vraiment sur de l'accompagnement, on a une équipe qui est dédiée pour eux, etc. En fait systématiquement ce qui se passe, c'est le sales il va valider le devis. Et une fois que le devis va être validé, il va faire une introduction auprès d'un gros stratégiste en disant « Bon, bah voilà, je vous présente la personne qui va être en charge de votre dossier. » Et la personne qui est en charge du dossier, derrière, va envoyer un questionnaire va envoyer un questionnaire en disant « Ok, qu'est-ce que vous avez testé dans le passé, quelles sont vos propositions de valeur, quel est votre business, etc. » Tu vois, vraiment pour qualifier, pour que le gros stratégiste, avant le kick-off de la mission, puisse arriver et déjà anticiper les stratégies qu'on va pouvoir tester, anticiper les trucs qu'on va pouvoir faire. Et en plus, on utilise Google Drive pour gérer les dossiers clients. Mmh. Et donc, le gros stratégiste va devoir créer le dossier dans Google Drive avec les sous-dossiers. Derrière, on a des templates spreadsheets pour pouvoir présenter des publicités. On a des templates Google Word pour Google Doc pour tel et tel cas. Et donc, on passait notre vie à créer des dossiers, faire des copier-coller de templates. Et puis, il faut que la personne, elle ait signé le contrat. C'est le gros stratégiste. Donc, le sales fait signer le devis et le gros stratégiste fait signer le contrat. Et en fait, du coup, il fallait changer les variables dans le contrat, etc. Et en fait, du coup, avec Zapier, on a fait exactement la même chose. En fait, le sales, il remplit. Donc, il fait signer le devis. Une fois que le devis est signé, il remplit un typeform. Dans ce typeform, il met le prénom du gros stratégiste, l'email du gros stratégiste, combien d'itérations on va faire avec la personne, etc. Et en fait, le client reçoit un email du gros stratégiste, mais en réalité qui n'a pas été envoyé par le gros stratégiste. En fait, ça part de la boîte mail du gros stratégiste, mais le gros stratégiste n'est pas au courant. Et en fait, ça lui envoie un email automatiquement avec « Ok, je vais avoir besoin de ça, 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 ça. » Veuillez trouver ci-joint le contrat, et le contrat a été fait automatiquement avec un outil qui s'appelle Formstack. Donc sur Formstack, on a notre template de contrat avec les variables, et avec Zapier, on remplace les variables, on l'exporte en PDF, on le met en pièce jointe d'un email. Et ça vient créer les différents dossiers, les sous-dossiers, copier les templates, etc. dans Google Drive. Donc en fait, le gros stratégiste n'a rien fait, juste le sales a rempli le typeform, et derrière tout le process est fait. Et donc derrière, le client répond ah ok, enchanté Mathilde, par exemple, qui est grosse stratégiste chez nous, enchanté Mathilde, ben vas-y, je réponds à tes questions, etc. Et là voilà, et donc Mathilde n'a pas eu à faire tout ce travail manuel, tout est fait de manière automatisée. Ah, non, donc tu vois, c'est un peu les deux cas de figure, okay. Le cas un peu simple et des process un peu plus lourds.
Ouais, c'est de toute façon, en termes d'opération, vraiment je pense que l'avenir, enfin beaucoup de boîtes, mais toutes les jeunes boîtes comme vous, toutes les startups et tout, ont bien compris ça, quoi, qu'on pouvait automatiser énormément de choses, se faciliter. Et en plus, ça va avec des process clairs et clean, quoi, parce que avant d'automatiser quoi que ce soit, tout ce que tu nous as décrit, c'est déjà un process, je sais pas comment dire, tu vois.
Tout à fait.
Créé, mais qui déjà il faut mettre en place, quoi. Se dire, OK, comment on fait, dans quel ordre on fait les choses, et ensuite on l'implémente, et ça permet d'avoir tout ça au clair, quoi. Tu peux pas mettre. Tu sais pas qui est responsable.
Ouais, bah ça effectivement, ça a été c'est vraiment le truc que, bah, quand je fais des formations en growth ou des choses comme ça, et que enfin on nous demande un petit peu, tu vois, typiquement les gens qui souhaitent apprendre notre méthode, ils nous posent beaucoup de questions là-dessus. Nous, systématiquement, par contre, quelque chose qu'on dit, c'est au départ, faut avoir fait faut que le travail manuel il ait été fait 100 fois. Avant de pouvoir vraiment identifier le fait que, ah bah en fait, attends, là au bout de 100 fois, je me rends compte que les 50 dernières fois, j'ai fait 50 fois la même chose. Parce que les 50 premières fois, on va se dire, ah attends, le client il va dire, ah ouais, mais il me manque ça. Ah mince, putain, c'est vrai, ça ce serait un truc, ça pourrait être cool de le mettre systématiquement auprès des clients. Ah bah attends, on va mettre le truc. Et au bout de 50 fois, tu as un process qui commence vraiment à être standard. vraiment standard. Et puis du coup, pendant les 50 fois suivantes, tu fais tout le temps la même chose et tu te dis, bon là, c'est bon, stop, j'automatise le truc, et puis voilà. Mais c'est systématiquement ça le process. Ouais.
Bien sûr, ouais. Non, il faut toujours commencer aussi par là, quoi. Ok, bah écoute, plein de choses passionnantes, le temps file. Du coup, quelques questions pour finir. On va essayer d'être bref, mais si tu avais quelques conseils vraiment très pratiques, justement, un peu sur, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, tu vois, pour des gens, des no-codeurs qui lancent leur projet, qui ont du coup pas du tout cette sensibilité de gros hacker, mais je veux dire, quand on lance un projet, il faut bien acquérir ses premiers utilisateurs, sans même parler de clients, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais un petit peu, si on doit résumer?
Ouais, et ben du coup, moi le conseil que je donne systématiquement, c'est il faut toujours avoir l'humilité et suffisamment mettre son ego de côté pour se dire que même si un projet on y croit dur comme fer, même si on a envie d'y croire, on a envie de mettre sa vie dedans, etc. En fait, on n'a aucune garantie que on est en train de faire quelque chose qui a du sens pour les gens. C'est difficile à admettre, mais c'est vraiment ça le gros conseil que je donne, c'est il faut vraiment se mettre ça en tête et en fait se dire que quoi qu'il arrive, vu qu'on ne le sait pas, l'objectif numéro un, c'est valider des hypothèses. C'est vraiment ça le truc. Et à partir du moment où on se dit, moi ce que je veux, c'est valider des hypothèses, et ben une des hypothèses, ça va être, est-ce que les gens vont être intéressés par... Le premier point, c'est est-ce que les gens vont être intéressés par ma proposition de valeur ? La proposition de valeur, c'est simple, hein. C'est vous arrivez sur un site web, le premier truc qui est écrit tout en haut de la page, c'est la proposition de valeur. Donc limite, vous pourriez mettre une page avec un seul bloc, c'est-à-dire une espèce de petite image que vous avez trouvée sur Internet, une proposition de valeur et un bouton découvrir, et vous traquez le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton découvrir. Déjà, rien que ça, ça prend une demi-heure. Vous allez le poster dans des groupes Facebook, parce que souvent les groupes Facebook, enfin je veux dire, ça c'est pareil en termes de mentalité. Donc pour donner un exemple, donc avant de travailler chez Germinal, donc avec ma boîte, donc boîte dans le domaine artistique, on a dépensé 0 euros en acquisition, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois que sur des groupes Facebook. Pourquoi ? Parce que ben en fait on s'adressait à des musiciens, on s'adressait à des danseurs, on s'adressait à voilà. Et en fait vous allez sur Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez musicien, guitariste, guitare. Voilà, et vous avez, mais honnêtement, hein, moi, dans mon marché, il y avait 500 groupes Facebook, je pense. Je les avais tous classés dans un tableur Excel. Et du coup, ben, dès que j'avais besoin de poster un truc sur de la guitare, par exemple, ben, j'allais dans les groupes de guitare, je disais, hey, tout le monde, salut, vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et les gens, ils allaient et je regardais, est-ce que les gens, ils se sont inscrits? Est-ce que les gens, ils ont fait une demande de devis? Est-ce que machin? En fait, rien que ça, ça m'a pris 5 minutes. Et en fait, j'ai validé une hypothèse. Et donc, faut toujours être dans cet état d'esprit de je valide les hypothèses le plus rapidement possible, même si le truc il est un peu bancal, c'est pas grave, il faut y aller. De toute façon, à la fin, c'est la donnée, la data, qui est clé. C'est pas mon petit feeling personnel de je pense que je vais révolutionner le monde. Ça n'a pas de sens tant que ça n'arrive pas. Mmh. Et donc, le meilleur moyen en fait de passer outre ça, c'est de se dire bon, alors attends. Et puis, pareil, un exemple que je donne systématiquement, Facebook. La V1 de Facebook, c'est un annuaire. Mmh. Yeah. Enfin, faut quand même réaliser ce truc de Facebook, la V1, c'est un annuaire. Si jamais il avait, si Mark Zuckerberg, il avait envisagé que sa V1 de Facebook, ce serait le Facebook d'aujourd'hui, en fait, ça aurait jamais vu le jour.
Ouais, il l'aurait jamais sorti. Hein? Ou alors il l'aurait.
Voilà. Exactement. Et quelqu'un aurait pris la place, en fait. Et le truc, c'est que lui, il s'est dit, moi, je veux valider l'hypothèse de est-ce que les gens, ils sont intéressés par la vie des autres. Je vais faire un annuaire et je vais aller regarder combien vont aller voir le profil des autres.
Ouais, c'est un bon exemple.
Et là, après, il s'est dit, ah, ok, les filles, elles vont voir les profils des mecs. Les mecs, ils vont voir les profils des filles. Et si je rajoute le champ célibataire, machin, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a vu qu'il y avait 3 fois plus de connexions par jour. Ah ouais, ok, donc c'est ça qui intéresse les gens et tout. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a avancé. Donc, faut constamment, vraiment le conseil primordial, c'est faut se lancer. On n'a pas le temps en fait. Il faut valider les hypothèses rapidement.
Et c'est intéressant parce que ça, c'est finalement un peu l'autre trait d'union dans tout ça. C'est le côté lean startup. En fait, on n'a pas du tout parlé de
exactement
tout ce que tu as évoqué. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est la méthodologie quoi. C'est l'approche. C'est un état d'esprit. tout cet état d'esprit dont tu parlais au tout début, de l'exécution finalement, là tu vois, enfin un peu la somme, et en fait on est tous regroupés par ça, par cette idée de lancer vite, avec les bons outils, au bon moment, que ce soit du no-code, des fois du code, des fois juste une landing page, enfin voilà, et faire tout ça, mais tester, ne jamais oublier que c'est le client qui décide finalement, enfin l'utilisateur qui décide s'il veut utiliser ton produit ou pas, et de l'interroger constamment, enfin...
Ouais, et tu vois, une correction aussi que je fais assez souvent à des personnes qui utilisent cette expression, tu vois, je pense que tu as déjà entendu l'expression « il faut éduquer le marché », c'est un truc qu'on entend beaucoup, et c'est une phrase qu'on entend systématiquement quand les gens ils sont en échec, c'est-à-dire « ouais, mais j'ai pas eu de bons résultats parce qu'il fallait éduquer le marché ». Mais en fait, moi, je propose de voir les choses à l'inverse, c'est de se dire que en fait, c'est le marché qui nous éduque. Ouais. Et en partant du principe que le marché va nous éduquer sur… est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort, bah, tout de suite, ça permet de reprendre les choses de manière totalement humble, et ça permet aussi de se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire analyser les signaux que nous envoie le marché.
Ouais. Non, je pense que c'est une bonne conclusion. J'ai deux dernières questions. Ouais. Très rapide, une qu'on pose à tous nos invités personnels, qui est un peu... Alors, nous, on adore les side projects, en fait, tu vois, vraiment, justement, cette logique qu'on était en train d'évoquer. Si toi, tu avais un side project à lancer, je sais pas, peut-être tu fais d'autres choses en dehors de Germinal, même si j'imagine ça doit te prendre beaucoup de temps, et que tu avais à lancer, bah, justement, avec un petit peu tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça serait?
Alors, j'ai pas de side project business. J'ai un side project associatif et en fait ben j'utilise plein de choses du business mais appliquées aux associations, parce qu'en réalité c'est rien d'autre que se construire une audience, voilà. Donc moi par exemple, à côté de Germinal, j'organise un festival avec des amis, un gros festival de danse hip-hop avec des amis, et du coup ben on utilise Webflow, on utilise Zapier, on utilise pour notre ticketing, on utilise des outils de pour gérer tout ce qui est billetterie, etc., parce que c'est un assez gros festival. Donc là, moi, mon side project, c'est celui-là où j'applique du coup des outils no code et tout. Et donc je pense que ça change peut-être d'autres invités que tu as pu avoir qui restent un peu focus business, mais voilà, juste pour dire, on peut aussi faire ce genre de choses sur de l'associatif ou voilà. Mais par contre, je ne te cache pas que j'aimerais bien pouvoir avoir un side project business. Là, il s'avère que j'ai pas eu une idée qui m'a plus intéressé que ça, et j'ai pas vraiment le temps.
Deux très bonnes raisons, je pense, pour ne pas se lancer. Donc.
Voilà, exactement. Et puis bon, j'ai un autre side project depuis un an, c'est que je suis devenu papa, donc ça me prend aussi pas mal de temps.
Une priorité, je pense.
Exactement, c'est un peu ça la priorité du moment plutôt que les side business.
J'imagine. Super, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu es un monstre d'influence aussi sur LinkedIn, par exemple?
J'essaye des trucs. J'essaye de suivre le sillon tracé par Grégoire. En fait, on voit que LinkedIn en B2B, notamment sur de l'influence, enfin, influence, c'est un grand mot, hein, mais sur de l'organique depuis des pages personnelles, l'impact sur le business, il est fou, mais il est vraiment fou. Et du coup, pareil, ça c'est un conseil aussi concernant le fait de mettre son ego de côté. J'ai toujours considéré que au début, je n'aimais pas parler sur LinkedIn parce que mais ça c'est un peu le syndrome de tout le monde, c'est mais j'ai rien à dire d'intéressant, etc., etc. Et puis je sais pas, un jour je me suis dit non bah écoute, quand je faisais des rendez-vous avec des clients, des fois je leur disais des trucs qui me semblaient hyper évidents, et puis ils me disaient ah ouais mais c'est génial et tout machin, et je me suis dit bon bah écoute, tous ces trucs que en fait tu dis un peu comme ça à des clients de manière complètement informelle, ils ont l'air de trouver ça intéressant, bah poste sur LinkedIn ça et puis on verra ce que ça donne. Puis j'ai eu des retours assez intéressants et tout, et après bon Grégoire il m'a dit bon bah t'es gentil mais maintenant il va falloir passer la seconde, donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne, et puis du coup maintenant j'essaye de bien m'y mettre. Donc effectivement vous pouvez me suivre sur LinkedIn, j'ai un Twitter mais que j'active assez peu, donc ouais le lieu idéal c'est LinkedIn.
Ok, super, on te pingera sur LinkedIn, on va appliquer justement les bonnes méthodes.
Bah ouais, taguez moi comme ça je viendrai liker et tout, on aidera l'algo.
Aider la diffusion du reach et tout ça.
Tout à fait.
Super, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça.
Merci à toi.
Et puis bah, à bientôt.
À très vite.
Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.